En 2025, quand on achète des ordinateurs pour le lycée, on se rend compte qu'on a OpenOffice qui est installé parfois dessus. Et c'est un problème de fond parce que ça veut dire qu'en fait, les professionnels de l'informatique, ils ont raté 25 ans d'histoire. On va comprendre pourquoi est-ce que OpenOffice sur un PC en 2025, c'est mal et c'est un problème. Alors, il faut remonter un petit peu avant les années 2000 avec une société qui s'appelle Sun Microsystems, qui est une société qui fait du matériel, mais qui fait aussi des logiciels, dont MySQL, un logiciel de base de données, Java, qui est un langage de programmation très connu, et moins connu, une suite bureautique StarOffice. À l'époque, il faut savoir, et même c'est encore le cas actuellement, que c'est Microsoft Office qui a pignon sur rue, et StarOffice n'est pas un bon concurrent, donc Sun va tenter quelque chose, c'est-à-dire qu'il va libérer le code. En libérant le code, ça veut dire que vous pouvez faire intervenir des contributeurs, donc des développeurs qui vont gratuitement coder pour vous votre suite bureautique, et c'est comme ça que va apparaître OpenOffice en 2000. C'est un projet qui répond quand même à un besoin, parce qu'en fait, tous les produits Microsoft sont des produits qui sont chers. Aujourd'hui, on les connaît sous forme d'abonnement, mais à l'époque, c'était des produits qui pouvaient arriver à plus de 250 euros facilement quand vous vouliez acheter la version de base, malgré un tarif étudiant. Donc, une suite bureautique gratuite, c'est intéressant pour tout le monde, et libre encore plus pour Sun, qui voit arriver des développeurs finalement quelque part gratuitement. Donc OpenOffice apparaît en 2000, en 2002 on a une version 1, et c'est un carton, comme on pouvait l'imaginer, puisque en 2004 on est déjà à 14% de part de marché. En 2009, on a 100 millions de téléchargements qui ont eu lieu, et il faut quand même se rendre compte de l'ampleur du logiciel, puisque en 2010 en France par exemple, c'est quasiment 20% du marché que représentait donc OpenOffice. Alors à cette époque, Sun va pas très bien financièrement, il va être racheté par une énorme boîte qui s'appelle Oracle pour 7,4 milliards de dollars. On est quand même en 2009, c'est pas rien puisque vous voyez que en ces dernières années, on a pu voir un rachat de Twitter qui se tourne aux alentours de 40 milliards de dollars. Donc c'est dire quand même la valeur que représentait Sun à l'époque. Quand vous mettez plus de 7 milliards de dollars sur la table, on peut imaginer que vous voulez quand même rentabiliser un petit peu et gagner de l'argent. Et c'est ce que va tenter de faire Oracle avec OpenOffice en proposant des abonnements qui sont payants tout en maintenant quand même le logiciel de façon plus ou moins libre. Et ça, les libristes, c'est-à-dire tous les gens qui utilisent du logiciel libre, ils le voient d'un très très mauvais œil ce rachat et ils vont donc créer en 2010 ce qu'on appelle le Document Foundation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fondation qui se veut indépendante de toute entreprise, comme vous avez par exemple la fondation Mozilla qui va développer Firefox et Thunderbird. Ce sont des fondations qui vont gérer du logiciel libre. Et donc, dans la foulée, ils vont faire ce qu'on appelle un fork et créer LibreOffice. Un fork, c'est tout bête, c'est-à-dire que comme OpenOffice, il a donc un code source qui est ouvert, vous pouvez faire un copier-coller de ce code. Donc, à un instant T, ils stoppent tout. Ils prennent donc tout le code source d'OpenOffice, ils copient et ils appellent ça LibreOffice et ils expliquent donc que c'est un premier pas vers la liberté. Alors c'est une période que moi j'ai connue, c'est-à-dire qu'en fait on était à l'époque sur nos distributions Linux et on voyait progressivement donc des mises à jour dans lesquelles OpenOffice disparaissait au profit de LibreOffice. Ça a été un succès assez important parce que en fait tout l'univers du logiciel libre a suivi. Et surtout les développeurs ont suivi. C'est-à-dire qu'en fait les gens qui développaient pour OpenOffice gratuitement, bénévolement, eh ben en fait voyant la situation avec Oracle, ils ont basculé du côté de LibreOffice. Ça veut dire qu'en fait OpenOffice très rapidement s'est fait dépasser par LibreOffice, il a perdu l'ensemble de ses développeurs et on se doute bien que finalement Oracle n'a pas réussi à gagner de l'argent avec. Alors Oracle, pour se débarrasser du produit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris OpenOffice et il l'a donné à la fondation Apache. La fondation Apache, c'est en fin de compte une fondation de plus qui gère du logiciel libre et qui a donc essayé, en ayant donc sa renommée, de continuer à faire le développement d'OpenOffice. Mais malheureusement pour la fondation Apache, les gens ils sont partis sur LibreOffice et ils n'avaient pas réellement d'intention de revenir. Cette situation-là s'est passée en 2011, vous voyez que ça commence à dater. LibreOffice, à un moment, a essayé de contacter non seulement Oracle, mais aussi la fondation Apache pour leur dire, ben, regardez, écoutez, vous avez perdu la guerre, libérez tout et donnez-nous surtout le nom. Parce qu'en fait, c'est ça qui va poser problème, c'est que le nom d'OpenOffice est tellement connu, puisque on se rappelle quand même qu'il est apparu en l'an 2000, que finalement, si aujourd'hui je me retrouve avec des gens qui mettent encore OpenOffice sur des PC en 2025, c'est que ce nom est resté tellement dans les mémoires que les gens qui sont pas très informés en informatique vont continuer de penser qu'en fait, eh ben OpenOffice, c'est la suite bureautique qu'il faut installer. Et bien sûr, comme on l'a compris, c'est à tort parce qu'ils installent un logiciel qui est moribond. Et ce qui est un petit peu triste dans cette histoire, c'est que, à la rigueur, que Oracle soit mauvais joueur parce que c'est une grosse société et qu'elle n'ait pas voulu lâcher le nom à la Document Foundation, ça peut s'entendre. Apache, qui quant à elle est une fondation qui développe du logiciel libre, elle aurait dû céder ce nom et de cette façon-là, on aurait eu une union entre OpenOffice et LibreOffice qui, quand on taperait, ben, ne nous donnerait qu'un seul logiciel qui serait LibreOffice et enterrerait OpenOffice qui est déjà bien mort, quoi. Et finalement, le dernier appel de pied, il a eu lieu en 2020, puisque ça correspond en fait aux 20 ans de la création d'OpenOffice. Et Apache qui a répondu que tout allait bien pour OpenOffice, que c'était un nom qui était encore très connu, et finalement n'a rien voulu lâcher. Donc c'est une situation qui est un petit peu triste parce que, en fait, effectivement, les professionnels de l'informatique sont totalement impardonnables de distribuer encore du OpenOffice quand on sait qu'il est totalement mort. Mais par contre, pour un particulier qui, dans sa mémoire collective, va penser qu'encore OpenOffice, parce qu'à l'époque c'était un logiciel renommé, est encore un logiciel valide, eh bien, il va avoir tendance à l'installer. Et le problème, c'est que comme OpenOffice n'est plus du tout développé, il n'est absolument pas compatible, y compris avec les documents LibreOffice qui apparaissent aujourd'hui. Donc voilà, ben vous saurez dorénavant que si on vous demande s'il faut installer OpenOffice ou LibreOffice, eh bien il faut installer LibreOffice parce qu'OpenOffice est un vieux projet mort et enterré.